Bonjour, je suis Annick Bernard, une ancienne de la BNF, mais je n'appartiens plus à aucun établissement puisque je suis retraitée. Donc, je représente le CFU dont je suis membre. Je dois vous parler aujourd'hui de la traduction de la troisième édition anglaise du format. Pas dans le détail, mais dans les principes que nous suivons, du format bibliographique, bien sûr. J'ai voulu rappeler quelques dates, parce que quelquefois on a un peu du mal à suivre le séquencement des éditions. Hier, on a dit que le format avait été créé par l'IFLA en 1974, je crois. Donc, le temps de le mettre au point, la première édition a été publiée en 1977. Je fais juste aussi un petit retour en arrière. On a parlé pas mal d'Intermarque aussi hier, Intermarque étant le format de la BNF, et de quelques rares bibliothèques, mais Intermarque était un format mis au point par un groupe de bibliothécaires européens dans les années 70. Ça a débouché sur l'utilisation d'Intermarque pour la création de la bibliographie nationale française, à l'époque Bibliographie de la France, en ligne à partir de 1975. C'était un format européen, mais il n'y a jamais eu que la France qui l'ait utilisé. Donc, première édition du format Unimarque en 1977, une deuxième en 1980, Unimarque Handbook en 1983 et en 1987, Unimarque Manual. Pas de traduction française avant 1991. Donc ce sont des bibliothécaires français, M. Chauvin, que c'est Mireille à l'époque, Thierry Cloarec et Suzanne Jouglet, qui ont réalisé cette première version française. Je mets aussi en tout un petit parallèle vers le format Unimarque Autorité qui a été publié pour la première fois en 1991. Ce qui expliquera que par la suite, on ne pourra plus dire seulement manuel Unimarque version française, il faudra préciser de quel format il s'agit. Donc, en 1994, nous avons une deuxième édition de Unimarque Manual de l'IFLA pour le format bibliographique. Édition, c'était une publication à feuillet mobile, suivie par des mises à jour qui ont été numérotées de 1 à 5, parues entre 1996 et 2005. La traduction française a suivi en parallèle. Donc, à partir de 1996, la deuxième édition, puis troisième en 1999, quatrième en 2002, cinquième en 2007. Et nous sommes maintenant à la sixième édition. Donc, pourquoi sixième? Parce que la troisième édition anglaise que nous traduisons est considéré aussi comme incorporant la sixième mise à jour par rapport à la série précédente. Il n'y a d'ailleurs plus de format de publication à feuillet mobile maintenant. C'est uniquement des manuels des manuels imprimés pour l'édition anglaise. Voici donc l'original. Oui, j'ai expliqué en dessous ce que je viens de dire. Et il est à jour en 2008, c'est-à-dire qu'il a inclus les mises à jour qui ont été adoptées par le comité permanent entre 2006 et 2008. La traduction en cours, je ne garantis pas le catalogage, hein, c'est pas mon secteur. la sixième édition française, comme je viens de dire, et nous avons une date que nous essaierons de tenir complètement, qui est 2010. Elle prend en compte le texte, comme je l'ai dit aussi, de la troisième édition anglaise de 2008, et c'est une traduction originale dans la mesure où toutes les zones du format sont revues, qu'elles soient traduites si elles sont nouvelles, traduites aussi pour leur mise à jour et révisées pour l'ensemble. Alors, les principes de ce travail, comme je viens de le dire aussi, c'est le format complet auquel nous nous sommes attaqués. Je ne les avais jamais comptés jusque-là. Il y en a à peu près 200, plus 18 annexes. Autre grand principe, le format en ligne et en libre accès. Vous connaissez déjà, et Thierry en a montré un tout petit bout tout à l'heure, vous connaissez déjà la rubrique professionnelle du site de la Bibliothèque nationale de France. Donc la BNF étant impliquée dans Unimark, elle a aussi assuré l'hébergement de la traduction de la mise à jour numéro 5 qui est en ligne depuis 2007. C'était déjà 64 zones plus 11 annexes. Un double point de départ pour mettre en œuvre les principes. On utilise la traduction existante, bien sûr. Je vous ai dit qu'on révisait toutes les zones. Il y avait déjà un travail de révision entrepris en 2007, mais compte tenu de ce que Agnès Maneux a exposé tout à l'heure, les membres du CFU étant très impliqués dans leur vie professionnelle, n'ont pas toujours pu consacrer beaucoup de temps à la révision. La troisième édition anglaise, ça va de soi. Alors, c'est un travail collectif. La révision et la traduction est assurée par les membres du CFU. Les membres du CFU, les membres à part entière, ce sont 14 professionnels en activité, plus une retraitée, et comme l'a dit Agnès, pas de moyens spécifiques. Alors, à côté de ces 14 membres, 15 avec moi, il y a aussi des membres associés. Membres associés, j'avais oublié le label, qui suivent l'activité du comité français Unimark et qui sont sollicités soit par leur expertise, soit pour simplement aider, qui sont sollicités pour donner un coup de main, notamment dans les traductions. Le site du CFU, Thierry Clavel, vous l'a montré tout à l'heure, avec son espace réservé aux membres du comité. Et concernant la traduction, les trois volets principaux sont les fichiers à traduire, les documents de référence que nous avons constitués au fur et à mesure que s'ébauchait la traduction. Le glossaire existait déjà d'ailleurs. Et puis, nous avons un aide-mémoire et quelques consignes. Les comptes rendus et documents de travail du CFU contiennent aussi des décisions ou des remarques concernant la traduction. Je vous redonne la page du site du CFU réservée aux membres. Françoise Lerèche étant une grande traductrice, c'est elle qui m'a fourni l'écran. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, les traducteurs. On a réparti les traductions entre les différents membres et chaque traducteur peut charger sa traduction. Ensuite, il y a toute une procédure. Bon. Je continue sur les principes. Donc fidélité à l'original avec une certaine liberté, notamment pour ne pas faire des traductions trop littérales et respecter notre langue. Le format publié par le PUC, mis au point par le PUC, étant destiné à un large éventail d'utilisateurs qui ont chacun dans leur pays leurs normes et leurs usages, évidemment nous sommes amenés à préciser ce que par rapport à ce qui est dit dans le format original, nous sommes amenés à préciser ce que les normes AFNOR ou les usages français impliquent et commandent de retenir. Chaque fois que nous devons le préciser, nous mettons une note de traduction qui peut servir donc de guide aux utilisateurs. De même, quand parfois nous éprouvons le besoin de préciser le sens ou de le modifier un peu par rapport à ce que peut laisser entendre l'original, nous justifions cet écart de sens par une note de traduction. De notre travail, il dérive des propositions de mise à jour de l'édition originale. Parfois, ce sont de simples corrections, précisions qui sont transmises de toute façon au comité permanent. Et puis, il arrive aussi qu'on peut buter sur des mises à jour nécessaires, la nécessité de mises à jour plus lourdes qui entraîne des demandes d'évolution à soumettre au comité permanent dans l'instance complète. Ça n'arrive peut-être pas souvent en ce qui concerne la traduction, cependant nous pouvons buter par exemple sur le fait qu'une norme ait été largement révisée par rapport à ce qui se trouve dans à l'usage qui en était fait dans les éditions précédentes. Donc ça donnera une demande d'évolution au PUC. Dans les principes, encore, nous devons harmoniser le vocabulaire qui évolue à la fois avec les normes et la technique. Ainsi, mais ça je crois que le terme est passé en usage depuis pas mal de temps déjà, au moins 2006, document qu'on avait l'habitude de rencontrer partout est remplacé par ressources. Donc ressources est déjà largement utilisé, notamment dans l'ISBD intégré, mais nous devons, en révisant les zones, faire beaucoup de remplacements. De même, les principes internationaux de catalogage qui ont été publiés en 2009 vont entraîner aussi un certain nombre de modifications qui sans doute seront faites progressivement et qui devront être généralisées par le PUC dans ces documents. Par exemple, on ne parlera plus d'entrée secondaire, mais on parlera de points d'accès supplémentaires. De même, on avait souvent control number en anglais, traduit parfois simplement par numéro de contrôle en français. Bon, identifiant était largement utilisé malgré tout dans la vie quotidienne. L'ISBD traduit en français employé identificateur. Bon, maintenant on a l'identifiant pérenne qui est devenu un standard. Donc il n'est plus question d'employer autre chose. On va employer identifiant partout. Ça fait pas mal de corrections. Et parfois, on le commente sous la forme numéro d'identification. Principe encore, traiter en priorité les erreurs qui ont été signalées, par exemple par l'ABES et les BU. Il y avait des codes dans la zone 115, c'est bien ça, qui étaient faux ou ou mal positionné, un phénomène, les ondes 431 et 437, leur intitulé était interverti depuis la première traduction. Bon. Principe, on a essayé de privilégier des ensembles de zones que j'ai citées là, le bloc des 0XX, 1XX, 2XX, 67 et 68, les classifications, et bien entendu les zones vedettes. Ou aussi, on a dit, ah, telle zone, on en a besoin parce que souvent, il y a un peu de confusion là-dessus. Donc voilà, c'était le cas aussi, je crois, des zones 305, 328 et 852. Nous devons anticiper quand c'est possible. Alors, anticiper, ça peut se faire de plusieurs façons, soit parce que nous anticipons sur les mises à jour que fera la prochaine édition du format original, notamment quand nous proposons nous-mêmes des mises à jour. Et à ce moment-là, on peut déjà mettre en place cette modification, mais en signalant dans la plupart des cas, sauf quand c'est évident, que c'est une spécificité actuelle de notre traduction. Autre anticipation, je crois d'ailleurs que les décisions du comité permanent dont Agnès a fait part et puis dont Alan Hopkinson a parlé aussi vont aller dans le sens de l'anticipation. Ça avait déjà été le cas lorsque l'IFLA a mis en ligne en special update la zone de l'ISBN révisée, puisque la norme n'a été publiée qu'après la sortie de la troisième édition originale. Je crois que ça va être le cas aussi pour la zone de l'identifiant de la musique, l'ISMN. Donc le PUC met en ligne et nous mettons à jour la zone correspondante en français. On doit aussi tenir compte, on l'a dit déjà beaucoup, le format Unimark au départ c'était un format d'échange, a été conçu comme cela, mais comme il est de plus en plus utilisé comme format de catalogage et de plus en plus largement, je veux dire en nombre de pays, puisque pour parler simplement de la traduction française, nous avons nos collègues qui l'ont expliqué hier, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie qui utilisent Unimark et se servent prioritairement de la traduction française. Donc il faut être précis et aussi à jour que possible. Par exemple, pour citer les normes, on se contentera plus de citer ISO 27.09, dont la plupart du temps, on ne connaît pas quel est l'état de mise à jour. Moi, je ne savais pas, avant de m'occuper de cette traduction, qu'elle avait été révisée en 2008. ISO 27.09, notre pain quotidien dans tous les échanges de notices. Bon. Il y a d'autres normes comme ça. Et d'autre part, non seulement nous donnons la date, mais aussi nous donnons l'intitulé complet. ISO 04, moi je ne savais pas non plus à quoi ça correspondait. Donc ISO 04, et là je ne vais pas savoir le citer par cœur. Bon. Ah voilà, les abréviations de titres de publication en série. Donc nous donnons l'intitulé complet de la norme. De plus en plus aussi, on trouve des outils de travail, des instruments de travail en ligne, ce qui fait que plutôt que de renvoyer vers des annexes qui ne sont jamais à jour à partir du moment où elles sont publiées sur du papier, donc nous donnons directement le lien vers le référentiel en ligne code de langue, code de pays et autres. Aujourd'hui, alors je n'ai pas vérifié le dernier état, ça doit être à peu près 60 zones, 55, qui sont publiées sur le site de la BNF. Elles sont marquées par un petit logo qui dit 6, c'est-à-dire 6e édition. Donc ceux qui avaient l'habitude de s'en servir verront que le petit logo 5 qui désignait la traduction des mises à jour de l'update 5 ont disparu, mais tant qu'ils ne sont pas remplacés par la traduction 6e édition, ces zones restent disponibles en ligne. Une deuxième vague est prévue ce trimestre, ce qui devrait arriver à faire 100 zones au total. Achèvement, notre objectif est que ce soit fini fin 2010. Bon, on va essayer de le tenir. Et le fait de l'avoir dit, ça nous engage encore plus. Oui, non, mais le 1er avril, on a fait une journée Unimark le 1er avril. Bon, nous faisons démentir. Voilà le site BNF. Avec la liste des blocs, des grands chapitres des zones du format, et bien entendu les textes introductifs et explicatifs qui ont été révisés aussi. Tout ça, ça donne beaucoup de liens vers, comme il se doit, pour la navigation. Et puis, un petit exemple, le bloc des informations codées. Donc, vous voyez que, sauf la zone 117, elles sont toutes en ligne. Les zones révisées récemment portent le petit logo avec le numéro 6. Et les zones qui datent de la mise à jour numéro 5, de la révision de cette 2006, restent en ligne. Je crois que j'ai oublié de préciser mon rôle exact là-dedans. Donc, je ne fais pas moi-même de traduction, pas jusqu'ici en tout cas, mais je fais la relecture et ça suscite un certain nombre d'échanges avec les traducteurs réviseurs. Ça induit aussi quelques petits documents annexes comme les consignes. Ça nourrit aussi en association avec les traducteurs et puis la présidente du comité français, ça nourrit aussi les fichiers qu'on transmettra au comité permanent. Voilà, ça m'amuse beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Et puis je pense que c'est utile non seulement en France, mais aussi un peu plus largement pour les usagers francophones. Alors après ça, on ne va pas trop se faire peur aujourd'hui, mais après ça, il restera encore plein de choses à faire. Donc, vous savez que le format d'autorité a été publié dans sa 3e édition en 2009. La 2e édition française, qui était une traduction très complète et très élaborée, est en ligne sur le site BNF. Et on trouve aussi la version originale corrigée sur le site de l'IFLA. Donc contrairement au format bibliographique qui jusqu'ici n'a jamais été publié intégralement par l'IFLA, on espère tous que ça viendra, mais ça demande des négociations et une mise au point. Donc le format d'autorité, lui, est en ligne depuis la 2e édition. Je n'ai pas parlé de la traduction des guidelines parce que je crois que c'est aussi un projet. Mais bon, peut-être on demande des volontaires. Merci à vous.